Bonjour et bienvenue. Alors sur la table aujourd'hui, on a un document assez intéressant. C'est un extrait du journal local hebdomadaire de Radio Tom Tam Africa, qui est daté du 24 janvier 2026. On va donc se plonger dans l'actualité de Besançon et du Val d'Oise. Et ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est une phrase dès le début qui dit qu'il n'est plus question d'imposer une vision, mais de la partager. Ça, c'est une promesse forte, je trouve. On va essayer de décortiquer un peu ce que ça veut dire pour le territoire.
Oui, et ce qui est fascinant, c'est que la manière dont le journal est construit vient vraiment appuyer cette idée. Ce n'est pas juste une liste de faits, vous voyez. On sent qu'il y a une vraie ligne éditoriale derrière, qui cherche à analyser une tendance de fond. Des mots comme proximité, implication citoyenne ou même identité locale, ils reviennent tout le temps. C'est vraiment le fil rouge du document.
D'accord, alors allons-y, commençons par le cœur du sujet, la politique à Besançon, avec les élections municipales qui approchent. Cette idée de partager une vision, c'est une belle formule, mais concrètement, ça se traduit comment? Le journal donne l'impression que c'est une vraie rupture.
C'est présenté comme ça, oui. Une rupture avec une façon de faire de la politique qui était peut-être jugée un peu trop verticale.
Trop éloignée du terrain?
En fait, quand on lit un peu entre les lignes, on devine que les habitants ont pu avoir le sentiment que les décisions étaient prises, de loin, quoi. Du coup, la politique de proximité, ça devient l'arme principale des listes d'opposition. C'est plus juste un slogan, c'est une réponse à une demande de considération, une demande de concret.
De concret, oui. Les gens veulent qu'on leur parle de leur rue, de leur quotidien.
Exactement.
Et ça, on le voit très bien quand on regarde les deux listes d'opposition que le journal détaille. D'un côté, il y a « Ensemble pour l'avenir de Besançon » de Philippe Noël. Alors là, le programme est piouf, il est très complet, on dirait presque un programme national. On a le vivre ensemble, la solidarité, la sécurité, l'éducation, la transition écologique bien sûr, et un point important, la transparence. Ça coche un peu toutes les cases, on dirait.
C'est une approche très, très structurée, oui. Presque académique, j'ai envie de dire. Ça vise à rassurer en montrant qu'on a pensé à tout. C'est une proposition de bonne gestion, si vous voulez.
Oui, c'est ça. Mais alors, juste à côté, on a l'autre liste, Unie pour Besançon, menée par Dejan Christik. Et là, le ton, il change radicalement. Eux, ils parlent de rupture nette. Et leur priorité, c'est très direct. C'est stop au bétonnage abusif, la lutte contre le désert médical et la défense du commerce de proximité. C'est presque un cri de colère.
C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur la différence fondamentale. Ce ne sont pas juste deux programmes, ce sont deux langages politiques différents. La première liste, elle parle aux citoyens avec des concepts, des valeurs.
Oui, des grandes idées.
Voilà. Alors que la seconde, elle parle aux résidents. À celui qui voit la grue s'installer en bas de chez lui, qui trouve plus de médecin ou qui voit sa boulangerie fermée. Les propositions sont des réponses directes à des angoisses du quotidien.
Donc, si je résume, on n'a pas juste deux listes qui s'opposent, mais carrément deux philosophies. Une qui veut mieux faire et l'autre qui veut faire autrement.
On peut tout à fait le voir comme ça. La liste de Noël, elle semble dire « le système a des défauts, on va les réparer, le rendre plus efficace ». C'est une logique de réforme. Celle de Christik, elle dit « le système lui-même est le problème. Le développement actuel nous étouffe, on va y mettre un coup d'arrêt ». C'est une logique de transformation. Et la question que ça soulève, c'est de savoir quel discours résonne le plus aujourd'hui. Est-ce que les gens attendent une meilleure gestion ou un changement radical de modèle?
Et le journal ne tranche pas, mais il pose bien le débat.
Il le pose très bien.
Et cette question d'identité, de ce que la ville doit être, elle n'est pas seulement politique en fait. D'ailleurs, le journal fait une transition très habile en nous emmenant juste à côté, à Argenteuil. Et là, l'angle est complètement différent. On parle plus de politique, mais de culture.
C'est une transition très intelligente, oui. Parce que cette quête de sens, ce besoin de se reconnecter à son territoire, on la retrouve là-bas. Mais ça passe par un autre canal. La ville est présentée comme un pôle culturel majeur. Et ça, c'est clairement une stratégie pour se construire une identité forte. C'est une manière de dire, on n'est pas juste une banlieue, on est un lieu avec une histoire, une âme.
Ah oui, cette partie sur Argenteuil m'a vraiment marquée. Ils mettent dans le même sac la maison impressionniste de Claude Monet et des parcours de street art. On a aussi la basilique Saint-Denis, un monument historique. Et juste à côté, une salle de musiques actuelles qui s'appelle La Cave. C'est un sacré mélange, non?
C'est un mélange, mais je dirais qu'il est mis en dialogue. C'est une stratégie de ce qu'on appelle le storytelling territorial. C'est très fin. En associant Monet, qui représente le prestige, l'histoire, la légitimité culturelle, au street art, qui incarne la modernité, la créativité urbaine, la ville se raconte une histoire complète.
Une histoire qui dirait quoi, en gros? On était important hier et on est cool aujourd'hui.
C'est un peu ça, hein. L'idée, c'est de créer des ponts. On dit aux anciens « votre héritage est respecté ». Et on dit aux plus jeunes « votre culture a sa place, elle est valorisée ». C'est une manière de fabriquer du ciment social. Plutôt que d'opposer les cultures, on les superpose. Et ça, ça renforce la fierté locale, ce fameux cadre de vie qu'on retrouve aussi dans les débats à Baison. Au fond, la question est la même. Comment on fait pour que les gens se sentent bien chez eux?
C'est vrai que, vu comme ça, politique et culture sont les deux faces de la même pièce. Mais alors que Besance débatte son avenir et qu'Argenteuil sculpte son identité, le journal nous rappelle que tout ça se passe dans un contexte, disons, plus large et un peu moins glamour. Il élargit le champ à tout le département du Val-d'Oise.
Et c'est là que le principe de réalité revient en force. Oui, le journal liste une série de défis qui pèsent sur toutes les communes, sans exception. Et la liste est longue, hein. Pression sur le logement, pouvoir d'achat en berne, difficultés d'accès aux soins, la sécurité, les transports qui sont saturés, et pour couronner le tout, des finances locales sous contrainte.
En gros, tout le monde est dans la même galère. Mais est-ce que le journal laisse entendre que c'est une fatalité?
Il donne pas de solution miracle, non. Mais il montre surtout que tous ces problèmes sont interconnectés. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une simple liste, c'est un système. La crise du logement fait grimper les loyers, ce qui grignote le pouvoir d'achat. Pour se loger, on doit s'éloigner, donc ça allonge le temps de transport. Si on a un souci de santé, le désert médical nous oblige à faire des kilomètres. Chaque problème en aggrave un autre.
Et par-dessus tout ça, cette contrainte budgétaire. Les mairies ont de moins en moins de marge de manœuvre. Ah oui, quand on comprend ça, les promesses des candidats à Baison, comme le stop au bétonnage, ça prend une autre saveur.
Exactement, ça remet tout en perspective. Un maire peut vouloir stopper la construction, mais s'il le fait, il se prive de recettes fiscales et il ne répond pas à la demande de logement. Il peut vouloir créer un centre de santé, mais il faut trouver le budget, et surtout les médecins. Chaque promesse locale se heurte à ces vagues de fonds. Le journal ne dit pas que l'action locale est inutile, mais il en souligne l'extrême complexité.
Les élus locaux ne sont pas des magiciens, en somme.
C'est un peu ça, oui.
Et c'est au moment où on se dit que la situation est quand même assez compliquée, voire un peu déprimante, que le journal prend un virage à 180 degrés. La conclusion, c'est pas un résumé politique, c'est pas une projection, c'est complètement autre chose. Presque un message de développement personnel. C'est vraiment déroutant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Ça détonne complètement avec le reste de l'article.
Je vous lis un extrait, parce que c'est assez incroyable. « Même si personne ne remarque vos progrès, célébrez votre propre force. Soyez votre plus grand supporter toujours. » On passe de la contrainte budgétaire du Val-d'Oise à ça. Qu'est-ce que ça vient faire là?
C'est une excellente question. À première vue, on pourrait se dire que c'est juste une petite note positive pour finir. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond. Et peut-être même la partie la plus politique de tout le journal. Pensez au parcours qu'on vient de faire. On a vu des débats politiques, une stratégie culturelle, puis des problèmes systémiques qui semblent nous dépasser. Et juste après ce constat d'une certaine impuissance collective, le journal zoome sur l'individu, sur sa force intérieure, sa résilience.
Donc ce serait une façon de dire « le système est bloqué, alors ne comptez que sur vous-même ». Ça peut être interprété de manière assez pessimiste, non?
C'est toute l'ambiguïté, et c'est ça qui est fascinant. On peut y voir un message d'autonomisation du type « ne soyez pas passif, ne restez pas à attendre les solutions d'en haut, votre force compte ». C'est un appel à l'action. Mais on peut aussi y lire, comme vous le suggérez, une forme de renoncement du collectif. Genre, les problèmes sont trop gros, alors bonne chance à chacun. Le message se situe vraiment à la frontière entre les deux. Et en faisant ça, il boucle la boucle avec la mission de Radio Tam Tam Africa, donner la parole aux habitants. Là, il ne s'adresse plus à eux comme des électeurs ou des usagers, mais comme des personnes.
C'est vrai, ça change tout. Alors, si on essaie de rassembler un peu tous les fils, on a d'un côté une scène politique à Besançon qui cherche cette fameuse proximité. De l'autre, Argenteuil qui utilise la culture pour créer du lien et une identité.
Et tout ça, sur une toile de fond commune à tout le Val-d'Oise, faite de défis très lourds, le logement, la santé, les transports, qui limitent fortement l'action publique.
Et on termine sur cet appel un peu surprenant à la force individuelle. Ça laisse beaucoup de questions ouvertes.
Exactement. Et s'il fallait en garder une pour la route, ce serait peut-être celle-ci. Tout le document fait l'éloge de ce qu'on pourrait appeler la « démocratie de proximité ». Les politiques la promettent, la culture la met en scène et le message final en appelle à la force des individus. La grande question qui reste, c'est d'où vient le véritable changement local? Est-ce qu'il vient d'en haut, de l'action municipale, des grands projets? Ou bien est-ce qu'il émerge d'en bas, de la somme de toutes ces résiliences individuelles, des initiatives de quartier, de cette vie qui fait l'âme d'un territoire? Le document a l'intelligence de nous présenter les deux moteurs, sans nous dire lequel est le plus puissant. Et peut-être que la vraie réponse, c'est que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre.